Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, vendredi 2 juillet, signe la dernière émission de la saison 2020-2021, émission Livre. Et comme chaque année maintenant, quelques chiffres sur les Français, la lecture pour vous mettre en bouche les résultats du baromètre 2021 du Centre National du Livre. Les Français à 81% se déclarent lecteurs. Sur les trois premières marches du podium, les romans, puis les livres d'histoire et enfin les livres pratiques. À 83%, les Français lisent en format papier et à 23% en format numérique. Enfin, de quoi réjouir mes invités de ce matin, 57% des Français disent avoir envie de lire plus. Un effet des trois confinements et des soirées à domicile, qui sait ? Des livres pour l'été, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, ça devient un rendez-vous et on ne s'en plaint pas, en tout cas je ne m'en plains pas. Autour du plateau, dans l'ordre, Sylvie Ostry en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes sur cette antenne, chronique de critique d'un livre par un élève du primaire, du collège et du lycée diffusé le samedi à 20h40. Bonjour Sylvie.
Bonjour Emmanuel, bonjour mesdames.
Voilà, vous êtes à distance aujourd'hui, non pas que vous soyez confinés une quatrième fois, mais c'est les contraintes. Bien content de vous avoir avec nous. Monique Fauché, toujours productrice de l'émission littéraire de Radio Présence Parole d'auteur, diffusée le jeudi à 19h, rediffusée, figurez-vous Monique, je vous l'apprends, le samedi à 16h. Bonjour Monique.
Bonjour à vous.
Et Isabelle Duché, en charge de la chronique Famille et vous, chronique sur la vie de famille, diffusée le mardi à 8h21. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, je précise tout ce que vous faites parce que du temps vous en passez pour la radio et des services vous en rendez. D'ailleurs, si on a le temps à la fin, vous me direz combien de temps ça vous prend à chaque fois. Ça m'intrigue. Alors, la lecture. Allez, au début, vous savez, Monique Fauché, j'aime bien vous taquiner. Hein. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pris la résolution de ne pas lire cet été, Monique Fauché, ou pas ?
Non, ça y est, j'ai une pile de livres pour la rentrée. Ça y est.
Voilà, c'est fait. On va commencer avec vous. Alors, comme à chaque fois, au début de cette émission, on commence par les livres jeunesse, enfants, adolescents, puis on parlera des romans avec Monique Fauché à la fin de quelques ouvrages spirituels pour cet été. La jeunesse, c'est vous, Sylvie Ostry. Vous faites ça au long cours, au long de l'année, puisque mon petit doigt m'a dit aussi que vous lisiez beaucoup des livres que vos élèves chroniquent. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pioché dedans, probablement pas pour le premier. Le premier, c'est un livre pour les moins de 6 mois, « Regarde dans l'herbe » aux éditions Nathan. Présentez-le-nous.
Alors, donc, c'est un petit livre d'éveil pour les tout-petits. Votre bébé pourra écouter toutes les histoires que vous pourrez lui raconter. Et comme tout bébé, il aime toucher, donc il pourra poser ses petits doigts sur les zones douces en relief. Vous allez vous régaler avec lui, parce que c'est un petit livre aux couleurs très vives. Il y a du vert, du rose, du noir, du blanc. Les zones argentées brillent, son regard sera attiré. Les illustrations sont vraiment magnifiques, les couleurs vives et attrayantes. Les pages sont en carton épais, donc résistantes pour les petits. C'est un livre sympathique pour les bébés curieux et attirés par le monde. Une promenade dans la nature avec des rencontres avec des coccinelles, un escargot. C'est un rythme très lent, comme une berceuse, et ça se termine avec des abeilles et des papillons pour dire bonsoir. C'est un petit régal.
Voilà, petit livre d'éveil donc pour les bébés. Hein. L'illustrateur est donc un certain Emiri Yayashi, né à Osaka, au Japon.
Tout à fait, c'est une japonaise et qui s'est installée en France en 1999. Voilà, qui rêvait de devenir illustratrice et qui participe à énormément d'éditions, les éditions Nathan Bayard. Elle vit et travaille à Paris. Donc c'est devenu une Parisienne.
En tout cas, pourquoi vous avez choisi juste ce livre-là ? Parce que les livres, on va dire, pour les tout-petits, il y en a beaucoup. Il vous a tout simplement tapé dans l'œil, Sylvie Ostry, ou il y a une autre raison ?
Non, il m'a tapé dans l'œil, parce que celui-ci était attrayant. Il permet aussi de montrer la nature, de sensibiliser très doucement avec des jolies petites coccinelles, des abeilles, une petite taupe, des poissons. Et c'est tout en douceur. Ce que j'ai apprécié, voilà, c'est que c'est un rythme très calme, très régulier, une véritable berceuse. Et ça le permet aussi, de bien que à 6 mois ce soit tout petit, mais de s'exprimer et de parler, et de voir son enfant qui s'intéresse.
Voilà, et on sait que maintenant, grâce aux neurosciences, l'apprentissage se fait aussi par le toucher, d'où probablement tous ces livres où on incite nos petits à toucher pour apprendre à nommer. Le premier, c'est donc « Regarde dans l'herbe », édition Nathan. Le second, alors, c'est pour les un petit peu plus grands. C'est « Un arbre, une histoire ». C'est un très beau livre. Alors, j'ai pas pu le feuilleter, mais j'en ai vu certaines pages. Assez original, de Cécile Benoît, aux éditions Actes Sud. Présentez-nous ce livre un peu étrange.
Voilà, c'est un livre un petit peu atypique qui est, on va dire, pour les enfants, mais en tant qu'adulte et maman, je me suis régalée. C'est une page, une histoire de livre. Donc, bon, il faut savoir quand même que dans toute notre histoire, les livres sont liés à l'homme. Il les plante, il les vénère, enfin, ils les ont vénérés, ils les ont abattus, ils leur ont attribué des pouvoirs. Il n'y a qu'à se rappeler Idéfix avec Astérix, voilà, qui pleure chaque fois qu'un arbre est déraciné. On a la culture que l'on peut. Et ce livre nous fait découvrir des histoires complètement incroyables et toutes sont vraies. Des histoires d'arbres qui sont fabuleuses. Par exemple, la triste vie, la triste fin surtout de l'acacia du désert du Ténéré au Niger, qui était le seul arbre sur 400 km à la ronde, symbole de vie et de néant dans un des plus grands déserts au monde et qui a été renversé par un camion qu'il n'avait pas vu. C'est assez original.
Alors, il y a aussi... Expliquez-nous peut-être comment sont présentées les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un récit sur un arbre avec une double page, c'est ça? Et puis l'arbre en regard.
Tout à fait. Il y a donc une illustration d'arbre avec reprise avec un petit peu l'histoire de l'arbre et un petit texte racontant la vie de l'arbre. Comme par exemple, dans un village en Inde, à la suite du décès de sa petite fille, le chef du village a décidé que chaque fois qu'une petite fille naîtrait, eh bien, on planterait 111 arbres. Ce qui a permis de développer effectivement une économie, mais de protéger toutes les petites filles. Voilà. Donc c'est vrai que c'est porteur d'espoir. Et ils se sont aperçus dans ce village que toutes les affaires criminelles avaient aussi disparu, puisque l'air de rien, en s'occupant des arbres, en s'occupant de leurs enfants, dans ce village, ils étaient beaucoup plus sereins.
Donc un livre à nouveau sur la nature, des récits donc qui reflètent la relation particulière que nous entretenons avec ces arbres. C'était le thème de l'émission Vivante Église de mardi, hein, avec Édouard Cortès, la force des arbres. Il nous racontait aussi sa vie en haut d'une cabane pendant 3 mois perchée dans un arbre. Et il y a de quoi faire, puis ces arbres. Alors j'ai appris du coup l'existence de certains arbres, du coco-fesse au palmier marcheur et de l'arbre à chèvre au baobab creux. Vous en avez découvert des arbres vous aussi alors?
Complètement. Donc, j'ai découvert l'histoire du palmier marcheur, mais là, je vous la laisse à découvrir parce que je connaissais absolument pas son histoire. Il y a des histoires aussi tragiques, il y a des histoires fabuleuses comme le séquoia qui ne pouvait pas se faire photographier puisque les séquoias sont immenses, mais un photographe par 1000 stratégies a réussi à le photographier. Il y a donc l'histoire effectivement du coco-fesse. Il y a toutes ces histoires, et en plus j'ai vérifié, sont toutes vraies. Donc c'est vraiment, comment dire, une approche pour les enfants et pour les parents, une approche ludique, poétique, et ça permet aussi de comprendre la biodiversité, les enjeux écologiques, et de prendre soin de la faune et de la flore qui nous entoure. C'est vraiment à mettre en toutes les mains, et c'est très très bien illustré, c'est superbe. Et je précise que l'auteur est toulousaine.
Voilà, ce qui ne gâche rien. Un arbre, une histoire de Cécile Benoît, c'est paru aux éditions Actes Sud, collection Junior. Alors maintenant, vous vouliez nous parler donc d'un autre ouvrage, peut-être probablement pour les plus grands, pour les adolescents, si j'ai bien compris, c'est Anne de Green Gables. Voilà, ça parle, c'est inspiré, si j'ai bien compris, d'une série télé anglaise.
Je me permets de vous couper. En réalité, le livre a été écrit en 1908.
Oui.
Donc c'est vraiment un très très grand classique, mais honnêtement je ne connaissais pas ce livre et j'ai découvert la série et ensuite je suis revenue sur le papier où j'ai pu revivre toutes les aventures de Anne de Green Gables, c'est-à-dire Anne de la maison au pignon vert. Donc c'était un plaisir complet. Vous avez le sourire tout le temps quand vous lisez ce livre. C'est une petite fille qui est curieuse, impulsive, pleine d'énergie, qui est vraiment... ça rejoint un petit peu Les quatre filles du docteur Marsh, Alice au pays des merveilles, avec un petit soupçon de Fifi Brindacier. C'est rafraîchissant, ça met du baume au cœur. Voilà, quel que soit l'âge, c'est le triomphe de l'espoir. C'est intemporel.
Vous pouvez dire un mot peut-être de cette âme, non ? En tout cas, j'ai lu des magnifiques critiques, magnifiques écrits et retraduits, le chef-d'œuvre de Lucie Maud Montgomery, c'était donc l'auteur, je crois que vous n'avez pas cité.
Voilà,
fait toujours autant vibrer une pépite intemporelle, dit elle. Cette âme, en fait, c'est une jeune fille adoptée, c'est ça ? On attendait un garçon, la famille d'adoption attendait un garçon, et elle, on va dire, elle secoue un peu dans le village.
Complètement. Donc, c'est une petite fille qui est orpheline, qui a 11 ans, qui est par erreur adoptée par Maria et Mathieu, qui attendaient un garçon pour les aider à la ferme. Glups, ils ont une petite fille. Et en fin de compte, ils sont séduits par cette miniature de 11 ans. Donc, elle a quand même le don de faire des bêtises, hein. Surtout dans une société où le paraître et la rigueur sont les lois. Mais elle va bousculer le calme, la monotonie de la vie de Green Gables, voilà, et la maison au pignon vert, et va les amener vers aussi une ouverture du monde et une ouverture de cœur, parce que c'est une enfant qui est extrêmement généreuse, qui est débordante de vie. C'est une petite rousse, et à cette époque-là, les roues n'étaient pas appréciées. Elle est différente, il faut aussi qu'elle apprenne à vivre avec sa différence. Et tout ça nous montre toute une vie de société où, dans un monde, on va dire, d'avant, de 1800 et trois poussières, mais ça reste une lecture très rafraîchissante et qui pourrait se passer à notre époque.
Voilà, j'ai lu une critique de Télérama aussi. Pourquoi se sent-on poussé des tresses virevoltantes à la lecture de ce roman d'un autre âge? D'où vient cette béatitude tenace qui nous lisse le visage, du style allègre, plein de piquants et de drôleries de son autrice? C'est donc Anne de Green Gables. C'est donc une réédition, nouvelle traduction de Anne, donc La Maison Opinion en français. Et c'est paru, voilà. C'est paru aux éditions, j'ai pas retrouvé.
Les éditions, alors que je revérifie, eh bien, ma foi...
Eh bien, on retrouvera.
Eh ben, je ne l'ai pas noté.
Eh bien, c'est pas grave, personne n'est parfait. Et puis, c'est bientôt les vacances, ça tombe bien.
Il se trouve très facilement, il se trouve très très facilement.
Dernier ouvrage dont vous voulez nous parler, Sylvie, c'est donc une collection assez originale, collection Essie, avec trois romans, Héros et héroïnes, Monde d'aujourd'hui et de demain, En route vers l'inconnu. C'est aux éditions Réparer le langage. Et voilà, et c'est des livres écrits par des adolescents.
Absolument, alors ça c'est mon gros coup de cœur. Trois romans, ce sont des pépites. Des romans écrits par des adolescents, pour des adolescents. Voilà, on peut trouver ces livres en librairie. S'ils n'ont pas, on peut les commander, il n'y a aucun souci. Et pour les ados, rien de mieux que des ados pour leur parler de leurs préoccupations et de leur vie d'aujourd'hui.
Alors de quoi ils parlent ces romans? De quoi leur parlent ces adolescents?
Alors dans ces trois romans, il y en a un qui parle de héros et de héroïnes. Par exemple, avec un petit peu donc, et si la jeune japonaise qui a fui un mariage forcé était menacée de mort. Donc là, il va falloir apprendre à se dépasser et devenir quelqu'un hors du commun. Et donc, ils ont des histoires ainsi ils puisent dans leur vie quotidienne. C'est un travail collectif. Ils apportent tous leurs idées et ils ont créé des romans superbes.
Alors, il faut dire aussi que ce n'est pas des élèves comme les autres.
Ce sont des élèves, on va dire, atypiques. Certains sont dans des collèges, des lycées, ayant rencontré au cours de leur scolarité de grandes difficultés scolaires. Donc, ils sont, comment dire, plus fragiles, avec parfois une approche de la langue française beaucoup plus difficile. Et justement, un des romans qui s'appelle « En route vers l'inconnu », ce sont quand même des lycéens. Dans certains, ce sont des élèves allophones. Ils sont venus des quatre coins du monde. Certains sont arrivés en cours d'année, ils ne maîtrisent pas réellement la langue française. Ce sont des migrants, voilà comme on dit. Ils sont maliens, chinois, congolais, bengalis, népalais. Ils ont entre 16 et 20 ans, mais tous ensemble, ils ont su dépasser, comment dire, leur origine et ont su créer un roman. Voilà, c'est ça qui est fabuleux. Et un roman où ou comment dire, enfin, des romans, puisque ce sont plus que des nouvelles. C'est pour ça que j'emploie le mot roman. Ils ont appris à se respecter, à aider les autres, à dépasser, enfin, ne pas parler de leur déchirure, d'avoir quitté leur famille, leur pays. Le roman ne s'appesantit pas sur leur parcours.
Et puis
le roman, ils sont porteurs d'espérance.
Et puis de s'approprier, évidemment, la langue française, probablement aussi par la même occasion.
Complètement.
Voilà, donc, ça fait trois romans en un. Monique Fauché me fait les gros yeux, parce que si je compte ça, on fait six, elle va me faire une crise de jalousie.
Absolument.
Désolée,
oui, mais Isabelle aussi, hein, elle compte. Hein.
Alors,
j'en ai encore moins.
Je vais reciter vos ouvrages. Regardez dans l'herbe, c'est aux éditions Nathan pour les plus petits, Un arbre, une histoire, c'est aux éditions Actes Sud. Donc Anne, la maison au pignon, maison d'édition inconnue, mais les auditeurs trouveront.
La maison au pignon vert.
Voilà. Maison au pignon vert, pardon. Et puis après, donc c'est trois romans dans la collection Essie, écrits par des adolescents, dont En route vers l'inconnu, c'est aux éditions Réparer le langage. Merci Sylvie Ostry. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités pour parler littérature et livres spirituels pour l'été. Des livres pour l'été, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église ce matin, ce vendredi, autour du plateau. Trois chroniqueuses livres d'une certaine manière, ou presque. Monique Fauché, productrice de l'émission littéraire Parole d'auteur, et non pas N'oubliez pas l'ouvreuse, M'en mêle les pinceaux, Sylvie Ostry, Coup de cœur des jeunes, et Isabelle Duché, Famille et vous. Ça vous arrive aussi, Isabelle, de citer des ouvrages, et en tout cas, ce matin, vous nous rendez bien service. Monique Fauché, alors, vos romans, donc il y en a trois. Le premier, C'est un homme qui a travaillé à Toulouse un certain temps. C'est un certain Bernard. Je dis ça parce que vous avez tout fait un effort, ou je ne sais pas si c'est suite au confinement, vous nous le direz. Bernard Rousseau, La jeune fille et au fleuve, aux éditions Passiflore. Déjà, pour commencer, les éditions Passiflore, c'est une de vos découvertes des confinements.
Écoutez, j'ai fait plein de découvertes de maisons d'édition et d'auteurs très intéressants. Merci au confinement. Je ne souhaite pas que ça recommence, mais honnêtement, j'ai eu de belles découvertes.
Donc Passiflore, c'est une maison d'édition du Sud-Ouest, c'est ça ?
Oui, oui.
Littérature contemporaine, romans et auteurs, coup de cœur et culture du Sud-Ouest, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Bon, c'est clair. Alors, La jeune fille et le fleuve, Bernard Rousseau, parlez-nous de ce roman, pourquoi vous l'avez choisi?
Alors, il a eu le prix Chronos 2020, c'est un prix littéraire national dans la catégorie lycéen 20 ans et plus. Donc là, je marche sur les brisées de Sylvie Ostry. Ça récompense les ouvrages en lien avec la jeunesse et avec l'intergénération. En fait, il s'agit de la rencontre de deux êtres que beaucoup d'années séparent, un vieux monsieur et une toute jeune fille. Des années qui les séparent, mais aussi, je dirais, les goûts, le milieu, les activités, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Tous deux sont abîmés, ils sont seuls, presque vaincus, je dirais, sans espérance. Lui attend la mort, elle la recherche. Ils se retrouvent au bord de la Garonne et chacun va retrouver une raison d'exister grâce à l'attention, l'écoute, la bienveillance, l'entraide et un projet commun qui porteront jusqu'au bout. Il faut un voyage donc initiatique.
Ça commence par un face-à-face nocturne, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Elle est tentée par l'onde sombre, par la Garonne. Elle est au bord de la Garonne, il fait nuit. Et lui, il lui dit, vous allez faire peur aux mouettes ou aux cormorans, je ne sais plus. Quelque chose de ce genre, aux oiseaux. Et ça suffit pour l'intriguer. Puis elle voit cet homme, elle croit que c'est un clochard. Bon, petit à petit, on va découvrir qu'il n'est pas du tout clochard. Mais il est solitaire, il est replié sur lui-même, il contemple le fleuve et il attend. Il attend, je pense, que la mort vienne. Donc, ils vont faire un voyage, une sorte de voyage initiatique sur la Garonne. En bateau. Et qui sera le fil conducteur. Il va se passer des événements. Je ne dirai pas la fin. La fin est très belle aussi. Et si vous voulez, j'ai eu tellement de raisons de choisir ce livre, car il y a beaucoup d'intérêt. Déjà, cette relation intergénérationnelle, on voit qu'on peut créer des liens à tout âge, et ça, c'est vrai. Après, cette relation est probable. C'est vrai que tout les sépare. Eh bien non. Finalement, on se rend compte que non. On peut toujours trouver quelque chose qui fait que... Après, l'importance pour les jeunes de trouver un objectif. Je parlerai aussi de ce qu'est l'auteur, parce que c'est très important. L'importance d'avoir un objectif, un centre d'intérêt en tout cas, ce qui donne l'envie d'avancer, l'envie de vivre. Bon, alors ça c'est... Et puis l'importance pour les adultes de s'y citer un centre d'intérêt. Il dit la curiosité, la mère de l'apprentissage. Oui, c'est vrai, parce que bon, on parle d'apprentissage. Enfin, et puis lui, alors en plus, cet homme, ce vieux monsieur, va trouver une méthode extraordinaire pour l'aider à passer un bac qu'elle avait complètement oublié, elle y avait renoncé. Celle de Socrate, c'est-à-dire déambulation dans la ville, dialogue, interrogation, conversation, avec une alternance de travail et de promenade pédagogique et artistique. Voilà. Alors
l'auteur, peut-être ?
Alors, l'auteur, Bernard Rousseau, un homme extrêmement sympathique. Je vais lui dire d'écouter l'émission. habite notre région, il habite près de Revel. Il est ingénieur agronome de formation. Il a travaillé d'abord en Afrique, et il a un réel amour du bois et du travail du bois. Ça compte dans l'histoire, en fait. Et de retour d'Afrique, il s'est installé à Revel, où il est devenu créateur de meubles. Et il était président, parce que là, il vient d'arrêter, de l'Association des ébénistes et créateurs. Voilà. Et alors, il y a une chose extraordinaire.
Il me semble que vous me disiez en préparant l'émission qu'il avait lui-même aidé des jeunes, c'est ça ?
Oui.
Dans son activité professionnelle.
Voilà. Il a reçu beaucoup, beaucoup d'apprentis. Alors, comme il me racontait, des apprentis qui vraiment n'avaient rien à faire de venir faire ce stage, etc., ça ne les intéressait pas. Il y en avait qui venaient par motivation, par goût, par vraiment... Mais justement, c'était avec les premiers que ça, il avait envie que ça marche. Voilà. Donc, voilà, ben, écoutez-moi, c'est une histoire de notre région d'abord, parce que ça se passe au bord de la Garonne, ça se passe du côté de la place Saint-Pierre, sur les quais aussi, dans le centre-ville, mais aussi dans le quartier des Isards, voilà, et puis tout le long de la Garonne, on va suivre dans la barque, etc.
Voilà, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vois le temps qui passe, je voudrais quand même que vous ayez le temps de parler des deux autres. Il en a écrit deux autres, Écriture sauvage, L'arbre qui marcheur.
Oui, mais je ne l'ai pas lu.
Peu importe.
Non, je n'ai pas lu.
Vous vouliez ajouter une dernière chose, Monique?
La jeune fille et le choix. Oui, je voulais vous dire que, oui, par exemple, il dit jeune, c'est ce vieux monsieur qui parle. Jeune, on se sent immortel, même si la mort peut vous toucher, c'est toujours l'affaire des autres. Vieillir, c'est la même chose et c'est heureux, car sinon la vie ne serait qu'une angoisse. Vieillir ne s'apprend pas, mais ça vient peu à peu, sans bruit, sournoisement. Bien sûr, on s'y attend un peu depuis le temps qu'on s'en parle en plaisantant au début seulement. Un jour, on ne sait même plus voir les formes dans les nuages et on ne s'en est pas rendu compte. Voilà. Et il dit, il faut voir les formes dans les nuages.
La jeune fille et le fleuve, c'est de Bernard Rousseau, aux éditions donc Passiflore. C'est votre premier choix. Le deuxième.
Alors justement, puisque vous m'aviez demandé de
Frédéric Lenoir.
Et oui,
Albin
et vous
Michel.
M'aviez dit deux livres, évidemment. J'ai triché, évidemment. Là, ça va faire deux
livres positifs aussi, je vous ai dit.
Alors voilà. Et puis c'est très drôle parce que ça m'a fait penser, et je l'ai lu peu de temps après, à ce livre, La Consolation de l'ange, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a tenté de se suicider, décidément deux suicides. Mais ça, il faut en parler. Du suicide chez les jeunes, hein, actuellement, qui a tenté de se suicider et que l'on installe à l'hôpital faute de place dans la chambre où se trouve une très vieille dame qui envisage, elle, sa mort prochaine sans effroi. Alors lui est blasé, rien ne l'intéresse. Elle, tout l'intéresse. Il faut dire qu'elle a appris très jeune la valeur de la vie. Je ne vais pas tout dévoiler parce que
vous allez me dire
que je n'aurai pas le temps. Et c'est ponctué de poèmes de Victor Hugo. Et Dieu sait que Victor Hugo a écrit des poèmes magnifiques sur la vie, sur la fraternité. Vraiment.
Bon, donc elle lui fera part d'une expérience extraordinaire qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans. J'ai vu qu'elle a transformé sa vie. C'est ça quand même le nœud un petit peu, ce qui va redonner vie à...
C'est ça, c'est surtout son caractère. Oui, et puis ils vont parler de tous les thèmes, ils vont les aborder. Elle lui parle de l'immortalité de l'âme, de Spinoza, l'éthique de Spinoza. Il faut quand même... mais c'est quand même Frédéric Lenoir. Hein. Ce qui différencie...
Vous pouvez redire deux mots peut-être sur Frédéric Lenoir? Tout le monde ne connaît pas forcément, Monique. Auteur à succès, j'ai eu 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand même,
ouais,
Frédéric Lenoir.
Oui. Et souvent avec un thème de spiritualité. Hein.
Ancien directeur de la rédaction du Monde des Religions.
Oui, voilà. Absolument. Voilà. Alors,
livre
bon,
de spiritualité livre initiatique, un peu comme
tout
celui-là.
À fait, voilà. Tout à fait. Et accessible, en fait, hein, accessible. Alors, beaucoup de thèmes, ce qui différencie Freud de Jung. Ça, voilà, pour un jeune, ce n'est pas évident. La valeur de certains conflits. Il faut avoir des conflits aussi. L'écologie, les événements douloureux qui constellent toute vie. Elle apporte sa sagesse et lui sa jeunesse. Et il y a une osmose qui s'effectue. C'est vraiment très beau. C'est ça. Et puis Frédéric Lenoir, il a un talent pour transmettre, mine de rien, des pensées compliquées un peu, philosophiques, en tout cas spirituelles. Et il sait rendre tout ça accessible. Voilà. Et puis Hugo va s'attacher à cette personne en fin de vie qui lui a ouvert tant de fenêtres et il va vouloir l'accompagner jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est très émouvant. Mais ces deux livres sont très émouvants. Vraiment.
Voilà, je ne sais pas combien d'exemplaires il a été vendu, mais en tout cas, il y a une réédition en livre de poche. C'est preuve que ça a dû bien marcher quand même. Édition donc cette fois de 2021. C'est donc La Consolation de l'ange, Frédéric Lenoir,
la
paru aux éditions,
oui.
Albin Michel.
Elle dit, juste un petit mot. Dites donc, vous êtes une sacrée optimiste, vous. C'est Hugo qui parle, le jeune garçon. Et Blancherie, c'est quoi pour toi la différence entre les optimistes et les pessimistes? La lucidité. Les optimistes ont tendance à regarder la vie en rose. Pas du tout. Ils sont aussi lucides que les autres et voient le même monde sous leurs yeux. Mais tandis que les pessimistes disent c'est foutu, les optimistes disent cherchons une solution pour nous en sortir.
Voilà, et puis j'ai l'impression que j'avais noté aussi que dans Au fil du dialogue, elle lui parle de cette histoire amérindienne. Un vieux sage dit à son petit-fils, il y a deux loups en toi. Vous l'avez lu ça, hein? Il y en a un blanc, un noir. Le loup blanc, c'est tout le bien qui est en toi, qui veut grandir, s'améliorer. Le loup noir est méchant, il a envie de faire du mal aux autres et de tout prendre. Lequel va gagner? Le petit garçon ne sait pas. Et le sage lui répond, celui que tu nourris. Troisième livre que vous avez choisi, c'est un...
Alors là, ça n'a plus rien à voir, enfin si, de toute façon, de Jean-François Bessières, un Toulousain également.
Ne pas briser le cercle, édition nombre 7.
Voilà, oui, ça aussi, c'est une édition que je ne connaissais pas. Je dis Toulousain, en tout cas de la région, exactement. Alors lui est un journaliste, homme de radio, mais aussi de plume. Il a collaboré au mensuel bien connu Rock and Folk. Et il est passionné de musique, auteur, compositeur, interprète. Il a produit lui-même 4 albums sous le nom de Jefferson Noisé, un Français qui fait de la folk, c'est quand même pas de la country, c'est pas courant. Et il a écrit en 2018 un recueil aussi, une nouvelle chronique du bord de la Garonne que j'ai du coup et d'ailleurs que j'ai envie de lire, mais je ne l'ai pas lu. Et c'est donc son premier roman, Ne pas crier et ne pas briser le cercle. Voilà.
Oui.
Je continue.
Allez-y.
Alors, c'est à la fois une autobiographie, mais aussi une fiction qui ravive notre mémoire. La route 66, le dernier des Mohicans, la chevauchée fantastique, la bataille de Little Big Horn, autant n'emporte le vent, évidemment, la case de l'oncle Tom, nos rêves d'espace, d'aventure, de musique. C'est l'histoire d'un jeune Français qui est happé par la musique, très jeune, et qu'un chagrin d'amour va conduire aux USA. Ou bien que français, c'est le Frenchie, il va réussir en tant que chanteur de blues et de folk. Alors, on le suit dans une sorte de road movie. Il avait accroché en bandoulière à l'épaule une mythique guitare, la fameuse Martin D28. Alors, vous en avez entendu parler de la Martin D28.
Non, pas du tout. Non. Par contre, comprendre que le titre de l'ouvrage était inspiré d'une chanson lui-même, c'est ça?
Ah, ben voyez.
Will the Cycle Be Unbroken.
J'avais prévu de vous en parler. Voilà, alors on en parlera. Alors, il a essai de Randy Travis dans la chanson « Will the Circle Be Unbroken ?» et ça donne le titre du roman de Jean-François Bessières. Je traduis un extrait. Hein. « Par un froid matin de brouillard, j'allais à ma porte et je vis venir le corbillard pour prendre ma mère et l'emporter. Puis ce cercle se reformer. Au revoir, adieu, adieu. Un meilleur foyer nous attend dans les cieux. Oui, dans les cieux. » Et quand vous écoutez la chanson, elle est très belle. En plus, il y a ces paroles portées par une musique très belle. Si vous voulez, c'est une passionnante plongée dans un univers musical chaleureux, généreux, pas du tout guindé, émouvant. Alors, country, folk, blues, tout se mélange un petit peu. Je pourrais, mais ça serait trop long, vous en parler. Mais c'est vrai qu'il y a quelques nuances. Mais en tout cas, c'est l'héritage des Noirs venus d'Afrique comme esclaves dans les plantations sudistes, et puis aussi l'héritage des pionniers blancs venus d'Europe que la misère poussait toujours plus à l'ouest. D'ailleurs, on ne parle pas de couleur chez ces musiciens. Entre eux, il n'y a pas de couleur. À aucun moment, d'ailleurs, je n'ai vu. Alors, j'ai découvert en allant parfois chercher sur Internet que, effectivement, un tel était noir, l'autre blanc. Mais quelle importance ! Voilà. Et alors, dans cette musique qu'on écoute,
une sorte de traversée musicale, en fait.
Oui, oui, oui. Il y a souvent une grande mélancolie, une spiritualité également, dans l'espoir d'un monde meilleur, d'un père ou d'une mère protecteur dans l'au-delà. On le sait, hein, on a entendu des gospels, etc. Et effectivement, dans les blues, c'est cela. Il y a aussi la vie quotidienne, simple, rustique. Il y a l'homme face à une nature magnifique et écrasante. Il y a l'amitié, la mort, l'amour. Alors, si vous voulez, ce qui donne pour moi une forte charge émotionnelle, c'est l'idée là aussi, et je rejoins les autres livres, l'idée de la transmission. Ne pas briser le cercle, c'est continuer à faire vivre, à faire circuler, à faire que ce désir constant de transmettre ce qui a été transmis déjà, les racines et les traditions. Transmettre la musique, l'amour, la fraternité, à travers un objet, la guitare, qui devient un symbole, puisque entre eux, il y a une superbe guitare, une exceptionnelle guitare, ça arrive d'ailleurs, j'ai demandé à des musiciens, qui vraiment, que l'on va léguer. Alors, en plus, il est étonnant de voir combien les musiciens, moi je l'avais vu en interviewant ici des jazzmen, de voir comment entre eux, il y a des groupes qui se forment, se déforment, se reforment, ils se refilent, permettez-moi l'expression, les adresses, des contacts. Il y a une chaleur, un partage extraordinaire. Voilà.
Et ouais. Ben voilà.
Ben voilà.
Ça va, non?
J'ai dit tout en peu de mots quand même, hein.
Bravo. La jeune fille et le fleuve, c'est donc de Bernard Rousseau aux éditions Passiflore. C'est le premier donc, ouvrage dont vous nous avez parlé. La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir, paru aux éditions Albin Michel, et donc réédition en livre de poche. Et donc Ne pas briser le cercle de Jean-François Vessière aux éditions Nombre 7. Nombre 7, c'est aussi une maison d'édition du Sud-Ouest
Oui.
Oui, c'est ça. Hein. Voilà, on va faire une deuxième pause et puis on va parler un peu spiritualité, même si ça a commencé avec ces ouvrages initiatiques et intergénérationnels. Ça me faisait penser à une phrase du pape François qui il ne cesse de dire que si on fait se réunir et se rencontrer les personnes dites d'un certain âge et les jeunes, il y a là une bombe. C'est une expression qu'il utilise souvent. On vous retrouve dans quelques instants.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Des livres pour l'été, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin autour du plateau. Monique Fauché, Sylvie Ostry, Isabelle Duché, nos trois chroniqueuses. Vous êtes toujours là ou pas, Sylvie Ostry?
Tout à fait. Alors juste une petite aparté. Donc l'édition de Anne des Pignons Verts, Monsieur Toussaint l'Aventure.
Très bien, vous nous redirez ça à la fin. Voilà, on fera un petit encadré comme on dit dans le métier. Alors, avec vous, Isabelle Duché, donc c'est quelques lectures spirituelles pour l'été. Le premier que vous nous proposez, c'est donc La Grâce aux éditions Plomb. C'est donc de Thibaut de Montaigu. En deux mots, Thibaut de Montaigu, c'est un auteur, on va dire, connu des milieux parisiens, qui a écrit déjà, entre autres, deux ouvrages, Un jeune homme triste et Les anges brûlent. C'est un écrivain de la jet set habitué au plaisir de la nuit, on va dire, à la plume mordante sur des milieux friqués, comme on dit, mais très, très désenchanté. Alors, il a écrit un livre là, qui s'appelle La Grâce, parce qu'il a été lui-même touché par la grâce. J'introduis votre propos par cette citation. Il y a 4 ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression, je ne trouvais plus aucun sens à l'existence, jusqu'à cette nuit dans la chapelle d'un monastère où j'étais touché par la grâce, par la sensation inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Pour moi qui ai toujours été athée, cette révélation relevait de l'incompréhensible.
Oui, c'est exactement ça. Thibaut de Montaigu, c'est comme vous le disiez, un auteur de la jet set qui arrive en fait complètement désenchanté. Voilà, il croit plus en rien, il a beau tout avoir, une femme, des enfants, un bon travail, et puis en fait il a perdu tout désir, toute adhérence au réel. Il passe ses journées au lit, Et en fait, il a peur de se retrouver seul avec lui-même. Et à la faveur d'un livre qu'il veut écrire sur Dupont de Ligonnès, il part à l'abbaye du Barreau. Et alors, c'est là que lui arrive cette conversion. Il écoute les complies, hein, il suit les complies chantées par les frères. Et voilà ce qu'il dit. On aurait dit des voix libérées de toute chair qui s'enfonçaient dans la profondeur des pierres. Alors, j'ai senti en moi un point. Une minuscule fleur de lumière qui commençait à grandir. Jusqu'à emplir soudain tout l'espace, les rangées de bancs déserts et les murs d'un autre âge, les moines enveloppés dans leur coule noire et ce grand Christ solennel qui descendait de la voûte. Dieu était là, à l'intérieur de moi et derrière toute chose, ici et nulle part à la fois, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, immergé dans l'univers et l'univers immergé en lui. Alors, je m'arrête là, mais
C'est un récit de sa conversion, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est un récit de sa conversion, et en fait, il ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'il est dans un milieu tellement désabusé et tellement déchristianisé qu'en fait, dès qu'il parle je ne sais pas si on peut appeler ça une conversion, mais de cette illumination, de cette expérience spirituelle, en fait, personne ne le comprend. Sauf un de ses oncles, Christian, qu'il va rencontrer sur son lit de mort, parce que Christian, c'est l'objet des trois quarts de ce livre, de La Grâce. Christian est un oncle frère Christian, qui était franciscain. Et alors, c'était un enfant qui n'a pas eu une enfance très heureuse parce qu'il était moqué à cause de sa grande taille. Et puis, il a eu un grand chagrin d'amour. Et puis, il noie son chagrin dans la fête. Il s'étourdit dans l'alcool, dans la fête. Une vie compliquée. Il finit par trouver un peu son chemin dans la mode, le commerce, les voyages. Et puis, il se découvre homosexuel. Et là, il plonge dans une nuit obscure de rencontres, de séduction, et il se fait agresser un jour au Champ de Mars. Et puis finalement, cette agression est aussi pour lui l'occasion d'une révélation. Et un jour où il est vraiment pas bien, il part en voyage en Espagne, et là, il a, pareil, comme son neveu, donc une illumination, et il s'arrête sur la route et il dit... tout à coup, j'ai la certitude de ne jamais avoir été autant aimé. Ça a été très violent, aussi lourd que du plomb, aussi fluide que de l'eau. C'était une expérience tout à fait exceptionnelle. Et voilà, il reprend le volant. Et puis cette expérience spirituelle est confirmée lors d'un pèlerinage à Medjugorje, où il repart. Et là, il a vraiment cet appel à être franciscain. Alors c'était complètement anachronique, parce que vraiment, il n'était pas du tout dans ce monde-là. Il était dans un monde de facilité, un monde de luxe et de volupté. Et puis finalement, il a été touché par cette figure de Saint François d'Assise, une figure très radicale, et il se trouve un parallèle entre la vie de Saint François et sa vie. Une vie qui a été très dissolue, une vie de luxe, et puis finalement une vie radicale, un choix, et qui finalement le comble.
Alors est-ce que ce livre, c'est aussi un livre quelque part qui s'interroge au long de ses pages sur la grâce, justement, sur ces grâces qui peuvent être reçues?
Est-ce que c'est autobiographique, pardon?
C'est autobiographique,
oui. D'accord. Les deux récits, le récit Thibaut de l'auteur de Thibaut de Montaigu, et le récit de son oncle, c'est pas du tout du roman. Je dirais que ça prouve que la grâce, elle touche tout le monde. Et que Dieu peut s'adresser à chacun dans la nuit la plus obscure de sa vie et peut révolutionner en fait une vie. Alors l'auteur lui-même n'a pas encore eu cette révolution, en fait il a peur. Il a peur de changer de vie, il est trop attaché à ses liens et à ses habitudes. Mais ce franciscain, cet oncle Christian, a une vie bouleversante et en fait il était un témoin pour sa famille, qui n'était pas du tout croyante, qui se moquait plutôt des religieux. Et il était très attentif aux autres, il était très à l'écoute. Et même sur son lit de souffrance, dans les derniers jours de sa vie, bah, plutôt que se plaindre sur sa souffrance, en fait, il s'intéresse encore aux autres. Donc un bel exemple de sainteté.
J'ai noté dans le journal La Croix aussi ce passage que j'ai trouvé très beau. Le neveu fait un voyage dans une église en train de mourir, au cure abandonné et aux communautés vieillissantes. Mais il dit la chose suivante à propos de Christian. Mais de cette soif, de ce manque, de cette absence fondamentale, Christian avait décidé de faire la preuve de l'existence de Dieu. Mmh. Geste insensé qui, dans cette église désertée, me paraissait plus puissant et plus invincible que tous les discours et les chiffres. J'ai trouvé ça évidemment très beau. On peut dire que ce livre a reçu le prix Flore 2020. Oui. Oui. Décerné par créé et décerné, si je ne me trompe pas, par Carole Chrétienneau et Frédéric Becbédé.
On pense pas Monique un Fauché. Peu à Charles de Foucault.
Exactement. Alors, il est aussi cité, justement pour ce contraste entre la vie d'avant et la vie d'après et ce changement de vie très radical. Mais c'est vraiment le modèle de François d'Assise qui a touché, à proprement parler, le frère Christian.
La grâce, c'est aux éditions Plomb et c'est donc de Thibaut de Montaigu. Deuxième livre dont vous vouliez nous parler, c'est Regarder ses enfants comme Dieu les regarde, c'est paru aux éditions MAM, c'est d'un auteur italien, en l'occurrence c'est un prêtre, Luigi Maria Epicocco. Dites-nous.
Alors c'est un prêtre italien.
Epicocco, hein, c'est presque ça. Hein,
Epicocco,
bon.
oui, c'est ça. Il est professeur d'université à Rome et il a même écrit un autre livre avec le pape François sur Saint Jean-Paul II le Grand, ça s'appelle. Et en fait, c'est un livre, alors c'est pas un roman, hein, on est d'accord là-dessus. C'est un livre un petit peu sur, qui donne des clés sur l'éducation et qui donne aussi des réflexions sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fait, il nous invite à poser un nouveau regard sur la jeunesse, puisqu'il nous dit, en fait, parfois, on a l'impression que la jeunesse, c'est une maladie et qu'il faudrait vraiment la soigner et ne pas la laisser passer. Il faut, au contraire...
Qu'elle passe vite
et surtout sans trop embêter les parents. Et puis, en fait, cet auteur, donc le père Luigi Maria Epicocco, dit, en fait, la jeunesse, c'est le temps de l'amour. Et ce temps... peut durer en fait toute la vie. Et le premier devoir de l'éducation, c'est de donner au fils confiance dans la vie. Et ce qui est intéressant, alors dans ce livre, il y a deux choses qui m'ont particulièrement touchée. C'est d'abord une première chose, il parle du complexe d'Égypte. Alors on a tous entendu parler du complexe d'Œdipe.
Mmh. Voilà, c'est ça.
Mais le complexe d'Égypte, en fait, c'est quoi ? Pour cet auteur, c'est une attitude qui consiste à se tourner vers le passé, comme s'il s'agissait d'une chaîne dont on ne peut se libérer et à préférer ses propres chaînes à la liberté.
De mon temps, hein, c'est ça.
Oui, en général, quand on commence à dire ça, c'était mieux avant, c'est qu'on sait qu'on vieillissait.
Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, deuxième point intéressant, c'est que en fait, cet auteur, il fait des parallèles entre des pères et des fils. Donc, il y a Abraham et Isaac, il y a... Israël et Joseph, bon, c'est pas tout à fait un père, effectivement, Élie et Samuel, David père, et pour chaque chapitre, l'auteur se base sur des textes bibliques, et cette semaine, je ne sais pas si vos auditeurs ont fait attention, on a lu tout le texte d'Abraham, et ça faisait vraiment écho à ce chapitre sur Abraham, puisqu'on a vraiment les différents épisodes. Évidemment, le moment où Abraham réclame en fait un fils à Dieu, et puis il n'en obtient pas, il en a un par sa servante, mais bon, c'est pas tout à fait... en tout cas, c'est pas le fils de son épouse Sarah. Il y a le sacrifice de son fils Isaac, et en fait, à chaque fois, à chaque épisode, Dieu va révéler à Abraham quel père il est. Et en se révélant quel père il est, il va pouvoir révéler au fils qui il va être lui-même. Et c'est en fait une croissance mutuelle, non seulement du fils, mais aussi du père.
Voilà, Regardez ses enfants comme Dieu les regarde, c'est aux éditions MAM, c'est donc de Luigi Maria Epicocco. Mmh. On peut dire aussi qu'il a écrit d'autres ouvrages qui ont l'air d'être intéressants. Hein. C'est pas pour vous, comment dire, pour... diminuer celui-là. La foi n'est pas un bonbon au miel, j'ai vu, pour une foi qui brûle. Je crois que c'est aux éditions MAM. Et ensuite, Regardez vos enfants comme Dieu les regarde, ça voulait dire. Et puis, il y avait donc Saint Jean-Paul II le Grand, les confidences du pape qui a canonisé Saint Jean-Paul II, en l'occurrence, c'est donc le pape François. Vous lui ajoutez quelque chose ?
Il y a une autre figure qui est très intéressante, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph qui a été vendu par ses frères et puis en fait, qui n'a pas choisi la vengeance, qui a choisi le pardon et qui en fait, avec ce qu'il a reçu de l'amour de son père, on parle de la tunique de son père, cette tunique qui était faite pour lui, sur mesure, il était un peu le préféré, et par cette prédilection, il a pu donner le pardon à ses frères qu'il avait vendus.
Voilà, regardez ses enfants comme Dieu les regarde, oui. Paru aux éditions MAM. Et puis donc, c'était à moi que revenait donc la charge de présenter un troisième livre. Donc, on me fait signe qu'il faut que je fasse vite. C'est une invitation peut-être à lire de temps en temps la revue carmélitaine de spiritualité qui s'appelle Vive Flamme. J'ai sous les mains un numéro. Où est la route du bonheur point d'interrogation. On peut trouver entre autres, donc c'est un mensuel de spiritualité. Il y a des frères carmes et autres qui écrivent des choses sur un thème, là, sur le thème du bonheur. Et il y en a un qui a un chapitre sur le thème « Éloge des chouettes et des hiboux ». J'aime les hiboux à cause de leurs grands yeux. Et ces grands yeux sont ceux qui fouillent dans la nuit quand les choses sont ce qu'elles sont. Et que pour fouiller la nuit, il faut avoir effectivement des yeux démesurés, les yeux de Dieu. Le chemin du bonheur à lire cet auteur, c'est donc d'apprendre à fouiller dans la nuit de la foi y compris. Et c'est là qu'on trouverait ce qu'il y a de plus grand, en tout cas Vive Flamme, une revue carmélitaine de spiritualité. C'est beaucoup de travail et beaucoup de nourriture, c'est donc aux éditions du Carmel. Allez, on fait un dernier récap, au moins pour la partie spiritualité, et puis on remettra tous les ouvrages sur le site internet. C'est donc La Grâce de Thibaut de Montaigu, paru aux éditions Plomb. Regardez ses enfants comme Dieu les regarde, c'est aux éditions MAM. Et la revue carmélitaine de spiritualité, Vive Flamme, c'est aux éditions du Carmel. Tenez, Monique, je vous l'offre.
Merci.
Le bonheur, c'est pour vous. Merci beaucoup à la technique. Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en septembre.